Chapitre 22. Le Ménil lui avait écrit « Je pars demain à 7 heures du soir, trouvez-vous à la gare. » Elle y était venue. Elle le vit dans le manteau gris à pèlerine, correct et calme, devant les omnibus des hôtels. Il lui dit seulement « Ah, vous voilà !»« Mais mon ami, vous m'avez appelé !» Il n'avoua pas qu'il avait écrit dans l'espoir absurde qu'elle reviendrait à l'aimer et que le reste serait oublié ou encore que lui dirait « C'était une épreuve ». S'il lui avait parlé ainsi, sur le moment, il l'aurait cru. Déçu qu'elle n'ouvrit pas la bouche, il lui dit sèchement « Qu'est-ce que vous avez à me dire ? C'est à vous à parler, c'est pas à moi. Je n'ai pas, moi, d'explication à vous donner. » « Je n'ai pas à me justifier d'une trahison. »« Mon ami, ne soyez pas cruel, ne soyez pas ingrat envers le passé. »« Voilà ce que j'avais à vous dire. »« Et j'ai encore à vous dire que je vous quitte avec la tristesse d'une véritable amie. »« C'est tout, allez le répéter à l'autre. »« Cela l'intéressera plus que moi. »« Vous m'avez appelé, je suis venu, ne me le faites pas regretter. »« Je suis fâché de vous avoir dérangé. » Vous pouviez sans doute mieux occuper votre journée. Je ne vous retiens pas. Allez le rejoindre, vous en mourrez d'envie. » À la pensée que ces pauvres et misérables paroles qu'elle entendait exprimaient un moment de l'éternelle douleur humaine, et que la tragédie en avait illustré de pareil, elle eut une impression de tristesse, mêlée d'ironie, que trahit un pli de ses lèvres. Il crut qu'elle riait. « Oh, ne riez pas et écoutez-moi. Avant-hier, dans la chambre d'hôtel, j'ai voulu vous tuer. J'ai été si près de le faire que maintenant, je sais ce que c'est. Aussi, je ne le ferai pas. Vous pouvez être bien tranquille. D'ailleurs, à quoi bon ? Comme je tiens pour moi-même à observer les convenances, j'irai vous voir à Paris. » J'aurai le regret d'apprendre que vous ne pouvez pas me recevoir. Je verrai votre mari, je verrai aussi votre père. Ce sera pour prendre congé et devant faire un voyage un peu long. Adieu, madame. » Au moment où il lui tournait le dos, Thérèse vit Miss Bell et le prince Albertinelli qui sortaient de la gare des marchandises et s'avançaient vers elle. Le prince était très beau. Viviane marchait à son côté avec l'allégresse des joies chastes. « Oh, darling, quelle bonne surprise de vous trouver ici. Nous venons, le prince et moi, de reconnaître à la douane la cloche qui est venue. »« Ah, la cloche est venue. Elle est ici, darling, la cloche de Ghiberti. Oh, je l'ai vue dans sa cage de bois. Elle ne sonnait pas parce qu'elle était prisonnière. » Mais je vais lui donner dans ma maison de Fiesole un campanile pour Gorgi. Quand elle sentira l'air de Florence, elle sera heureuse de faire entendre sa voix argentine. Visiter les colombes, elle sonnera à toutes nos joies et à toutes nos douleurs. Elle sonnera pour vous, pour moi, pour le prince, pour la bonne maman Mahomet, pour Monsieur Choulette, pour tous vos amis. Mais chérie, les cloches ne sonnent jamais aux vraies joies et aux vraies douleurs. Ce sont d'honnêtes fonctionnaires qui ne connaissent que les sentiments officiels. Oh, darling, vous vous trompez beaucoup. Les cloches sont dans le secret des âmes. Elles savent tout. Mais je suis bien contente de vous trouver. Oh, je sais, my love, pourquoi vous êtes venue à la gare. Votre femme de chambre vous a trahi. Elle m'a dit que vous attendiez une robe rose qui ne venait pas et que vous en séchiez d'impatience. Mais ne vous mettez pas en peine. Vous êtes toujours la toute belle, my love. » Elle fit monter Madame Martin dans la charrette. « Venez vite, darling, Monsieur Jacques de Chartres dîne ce soir à la maison, je ne voudrais pas le faire attendre. » Et tandis qu'ils allaient dans le silence du soir, par les sentiers pleins de parfums sauvages, « Voyez-vous là-bas, darling, les noires quenouilles des parcs, les cyprès du cimetière? C'est là que je veux dormir. » Mais Thérèse songeait inquiète. Ils l'ont vue. L'a-t-elle reconnue? Je ne crois pas. La place était déjà sombre et semée de petites lumières aveuglantes. Le connaissait-elle seulement? Je ne me rappelle pas si elle l'a vu chez moi l'année dernière. Ce qui l'inquiétait, c'était la joie sournoise du prince. Darling, voulez-vous une place à côté de moi, dans ce cimetière rustique, et que nous reposions l'une près de l'autre, sous un peu de terre et beaucoup de ciel? Mais j'ai tort de vous faire une invitation que vous ne pouvez pas accepter. Il ne vous est pas permis de dormir, votre sommeil éternel, au pied des côtes de Fiesole, my love. Il faudra que vous reposiez à Paris, dans un beau monument, à côté du comte Martin Belen. Pourquoi? Vous croyez donc, chérie, que la femme doit être unie à son mari même après la mort? Certainement, elle le doit, darling. Le mariage est pour le temps et pour l'éternité. Vous ne savez donc pas l'histoire des jeunes époux qui s'aimaient dans la province d'Auvergne? Ils moururent presque en même temps et furent mis dans deux tombes séparées par une route. Mais chaque nuit, un églantier jetait d'une tombe à l'autre sa tige fleurie. Il fallut réunir les deux cercueils. Ayant un peu dépassé la badia, ils virent une procession qui montait les pentes de la colline. Le vent du soir soufflait sur les dernières flammes des cierges portés dans des chandeliers de bois doré. Les filles, blanches et bleues, des confréries, accompagnaient les bannières peintes. Puis venait un petit Saint-Jean, blond, frisé, tout nu sous la toison d'agneau qui lui découvrait les bras et les épaules, et une sainte Marie-Madeleine de 7 ans, dans la robe d'or de ses cheveux crépelés. Les gens de Fiesole les suivaient en foule. La comtesse Martin reconnut Choulette au milieu d'eux. Un cierge d'une main, son livre de l'autre, des lunettes bleues au bout du nez, il chantait. Des lueurs fauves tremblaient aux angles de sa face camuse et sur les bords de son crâne tourmenté. Sa barbe sauvage se relevait et s'abaissait au rythme du cantique. Sous la dureté des ombres et des lumières qui lui travaillaient le visage, il avait l'air vieux et robuste, comme ces solitaires capables d'accomplir un siècle de pénitence. « Qu'il est beau !» dit Thérèse. « Il se donne en spectacle à lui-même. C'est un grand artiste. »« Oh, darling, pourquoi voulez-vous que M. Cholette ne soit pas un homme pieux ? Pourquoi ? Il y a beaucoup de joie, de beauté à croire. Cela, les poètes le savent. Si M. Cholette n'avait pas la foi, ne ferait pas les admirables vers qu'il fait. Et vous, chérie, est-ce que vous avez la foi? Oh oui, je crois en Dieu et à la parole de Christ. » Maintenant, le dais, les bannières, les voiles blancs avaient disparu dans les lacets du chemin montueux. Mais on voyait encore, sur le crâne nu de Choulette, la flamme du cierge rejaillir en rayons d'or. De Chartres, cependant, attendait seul dans le jardin. Thérèse le trouva accoudé au balcon de la terrasse où il avait senti les premières souffrances d'aimer. Pendant que Miss Bell cherchait avec le prince la place du campanile où elle suspendrait la cloche qui allait venir, il entraîna un moment son ami sous les cities. Mais vous m'aviez pourtant promis de vous trouver dans le jardin quand je viendrai. Je vous attends depuis une heure, qui m'a paru mortelle. Vous deviez ne pas sortir. Votre absence m'a surpris et désespéré. » Elle répondit vaguement qu'elle avait été obligée d'aller à la gare et que Miss Bell l'avait ramenée dans sa charrette. Il s'excusa de lui montrer un visage inquiet, mais tout l'effrayait, son bonheur lui faisait peur. Déjà, on était à table quand parut Choulette, montrant le visage d'un antique satyre. Une joie terrible luisait dans ses yeux de phosphore. Depuis son retour d'Assise, il ne vivait plus qu'avec des gens du menu peuple, buvait toute la journée du vin de Chianti avec des filles et des artisans à qui il enseignait la joie et l'innocence, l'avènement de Jésus-Christ et l'abolition prochaine de l'impôt et du service militaire. À l'issue de la procession, il avait réuni des vagabonds dans les ruines du théâtre romain et leur avait fait, en langage macaronique mêlé de français et de toscan, un sermon qu'il se plut à refaire. Les rois, les sénateurs et les juges ont dit « La vie des peuples est en nous ». Or, ils mentent, ils sont le cercueil qui dit « Je suis le berceau ». La vie des peuples est dans les moissons des campagnes qui jaunissent sous le regard du Seigneur. Elle est dans les vignes suspendues aux ormeaux et dans le sourire et les larmes dont le ciel baigne les fruits des arbres, au clos des vergers. Elle n'est pas dans les lois qui sont faites par les riches et les puissants pour la conservation de la puissance et de la richesse. Les chefs des royaumes et des républiques ont mis dans leurs livres que le droit des gens est le droit de guerre. Et ils ont glorifié la violence. Et ils rendent des honneurs aux conquérants. Et ils élèvent sur les places publiques des statues à l'homme et au cheval victorieux. Mais le droit n'est pas de tuer. C'est pourquoi le juge ne tirera pas de l'urne son numéro à la conscription. Le droit n'est pas de mourir la folie et les crimes du prince qui est élevé sur le royaume ou sur la république. C'est pourquoi le juge ne paiera pas l'impôt, et il ne donnera point d'argent aux publicains. Il jouira en paix du fruit de son travail, et il fera du pain avec le blé qu'il a semé, et il mangera les fruits des arbres qu'il a taillés. « Ah, monsieur Choulette, dit gravement le prince Albertinelli, vous avez bien raison de vous intéresser à l'état de nos malheureuses belles campagnes, que le fisc épuise. Quel fruit tiré d'un sol imposé à 33% de revenus nets? Le maître et les serviteurs sont la proie des publicains. » De Chartres et Madame Martin furent frappés de la sincérité inattendue de son accent. Il ajouta, « J'aime le roi. Je réponds de mon royalisme, mais les mots des paysans me sont sensibles. » La vérité est qu'il poursuivait avec une souple obstination un but unique, rétablir le domaine rural de Casentino, que son père, le prince Carlo, officier d'ordonnance de Victor Emmanuel, avait laissé aux trois quarts dévoré par les usuriers. Sa mollesse affectée cachait son opiniâtreté. Il n'avait que des vices utiles et tendus vers l'intérêt de sa vie. C'est pour redevenir un grand propriétaire toscan qu'il avait brocanté les tableaux, vendus en contrebande dans les plafonds fameux de son palais, plu à de vieilles femmes et finalement recherché la main de Miss Bell, qu'il savait très habile à gagner de l'argent et très entendu à tenir une maison. Il aimait vraiment la terre et les paysans. Les paroles ardentes de Choulette, qu'il comprenait vaguement, remuaient en lui cet amour. Il se laissait aller à dire sa pensée. Dans un pays où le maître et les serviteurs ne font qu'une seule famille, le sort de l'un dépend de celui des autres. Le fisc nous dépouille. Quels braves gens que nos fermiers! Pour remuer la terre, ils sont les premiers hommes du monde. Madame Martin avoua qu'elle ne l'eût pas cru. Les campagnes de la Lombardie seules lui avaient paru bien cultivées et coupées de canaux innombrables, mais la Toscane lui semblait un beau verger sauvage. Le prince répondit en souriant que peut-être ne parlerait-elle pas de cette manière si elle avait fait l'honneur de visiter ses fermes de Casentino, qui pourtant avaient enduré les souffrances de longs et ruineux procès. Elle aurait vu là ce que c'est que le paysan italien. Je m'occupe beaucoup de mon domaine. J'en venais ce soir quand j'ai eu le double plaisir de trouver à la gare Miss Bell qui reconnaissait sa cloche et vous, madame, qui étiez en conversation avec un ami de Paris. Il avait eu l'idée qu'il lui serait désagréable en parlant de cette rencontre. Regardant tout autour de la table, il vit le mouvement de surprise inquiète que de Chartres n'avait pu contenir. Il insista. « Pardonnez, madame, un rustique, une certaine prétention à connaître le monde. Ce monsieur qui causait avec vous, j'ai reconnu un Parisien à ce qu'il avait l'air anglais, et qu'en affectant la raideur, il laissait voir une aisance parfaite et une vivacité toute particulière. Oh, dit négligemment Thérèse, il y avait longtemps que je ne l'avais vu. Et j'étais très surprise de le rencontrer à Florence, au moment de son départ. Elle regarda de Chartres, qui affectait de ne pas écouter. « Mais je le connais, ce monsieur, » dit Miss Bell. « C'est monsieur le Ménil. J'ai dîné près de lui deux fois chez madame Martin. Il a causé avec moi très bien. Il m'a dit qu'il aimait le football, que c'est lui qui a introduit ce jeu en France et que maintenant le football est très à la mode. Il m'a aussi conté ses aventures de chasse. Il aime les animaux. J'ai remarqué que les chasseurs aimaient beaucoup les animaux. Je vous assure, darling, que M. le Ménil parle admirablement des lièvres. Il connaît leurs habitudes. Il m'a dit que c'était un plaisir de les voir au clair de lune danser dans les bruyères. Il m'a assuré qu'ils étaient très intelligents et qu'il avait vu un vieux lièvre poursuivi par les chiens forcer à coups de patte un autre lièvre à sortir du gîte pour donner le change. « Darling, est-ce que M. le Ménil vous a parlé des lièvres ?»
Thérèse répondit qu'elle ne savait pas, qu'elle trouvait les chasseurs ennuyeux. Miss Bell répliqua. Elle ne croyait pas que M. le Ménil fût jamais ennuyeux en parlant des lièvres qui dansent au clair de lune, dans les bruyères et dans les vignes. Elle aurait voulu, comme Fanion, élever un petit lièvre.
Darling, vous ne connaissez pas Fanion. Oh, je suis bien sûr que M. de Chartres la connaît. Elle était belle et chère au poète. Elle habitait dans l'île de Kos, une maison au penchant de la colline, qui, couverte de citronniers et de térébinthiers, descendait vers la mer bleue. Elle leur dit qu'elle regardait le regard azuré des flots. J'ai conté l'histoire de Fanion, M. le Ménil, et il a été bien content de l'apprendre. Elle avait reçu de quelques chasseurs un petit lièvre aux longues oreilles, enlevé à la mer quand il était encore. Elle le leva sur ses genoux et le nourrit des fleurs du printemps. Il aimait Fanion et il l'oublia à sa mère. Il mourut d'avoir mangé trop de fleurs. Fanion le pleura. Elle ensevelit un jardin de citronniers sous un tombeau qu'elle pouvait voir de son lit. Et l'ombre du petit lièvre fut consolée par les chansons des poètes. La bonne madame Marmet dit que M. le Ménil plaisait par des façons élégantes et discrètes que les jeunes gens n'ont plus guère. Elle aurait bien voulu le voir. Elle avait un service à lui demander. « C'est pour mon neveu, dit-elle. Il est capitaine d'artillerie, très bien noté et très aimé de ses chefs. Son colonel a été longtemps sous les ordres d'un oncle de M. le Ménil, le général de la Briche. Si M. le Ménil voulait bien demander à son oncle d'écrire un mot en faveur de mon neveu au colonel Four, je lui en serais bien reconnaissante. D'ailleurs, mon neveu n'est pas un étranger pour M. le Ménil. Ils se sont trouvés ensemble l'année dernière au bal masqué que le capitaine de l'Essai donna à l'hôtel d'Angleterre aux officiers de la garnison de Caen, et aux jeunes gens de famille des environs. Madame Marmet, baissant les yeux, ajouta, « Oh, les invités, naturellement, n'étaient pas des femmes du monde. Mais on dit qu'il y en avait de très jolies. Ces messieurs l'avaient fait venir de Paris. Mon neveu, qui m'a donné ces détails, était costumé en postillon. Monsieur le Ménil a hussard de la mort, et il a eu un très grand succès. » Miss Bell dit qu'elle était bien fâchée de n'avoir pas appris que M. le Ménil était à Florence. Certainement, elle l'aurait invité à venir se reposer à Fiesole. De Chartres resta sombre et distrait pendant le reste du dîner. Et quand, au moment de se séparer, Thérèse lui tendit la main, elle sentit qu'il l'évitait de la presser dans la sienne. Chapitre 23. Le lendemain, dans le pavillon caché de la Via Alfieri, elle le trouva soucieux. Elle essaya d'abord de le distraire par une ardente gaieté, par les douceurs d'une intimité pressante, par l'humilité superbe d'une maîtresse qui s'offre. Mais il restait sombre. Il avait tout le long de la nuit médité, travaillé, formé sa tristesse et son ennui. Il avait trouvé des raisons de souffrir. Sa pensée avait rapproché la main qui glissait une lettre dans la boîte
devant le San Marco de bronze et l'inconnu banal et redoutable qui avait été vu à la gare. Maintenant Jacques de Chartres donnait un visage, un nom à sa souffrance. Dans le fauteuil d'aïeul où Thérèse s'était assise le jour de sa bienvenue et que lui avait cette fois offert, il demeurait assailli d'images pénibles, tandis qu'elle, penchée sur l'un des bras, l'enveloppait de son corps tiède et de son âme aimante. Elle devinait trop bien ce dont il souffrait pour le lui demander simplement. Afin de le ramener aux douces idées, elle rappela les secrets de la chambre où ils étaient et le souvenir de leur promenade à travers la ville. Elle trouvait des familiarités gracieuses. La petite cuillère que vous m'avez donnée sous les lancies, la petite cuillère au lys rouge, je m'en sers pour prendre mon thé du matin. Et au plaisir que j'ai de la voir à mon réveil, mais je sens combien je t'aime. Puis comme il ne répondait qu'en paroles tristes et voilées, elle lui dit, mais je suis là, près de vous, et vous ne vous souciez pas de moi. Vous êtes occupé d'une idée que je ne sais pas. Pourtant j'existe, et une idée, ce n'est rien. Une idée, ce n'est rien, croyez-vous? On est heureux ou misérable d'une idée. On vit ou meurt d'une idée. Eh bien oui, je songe. À quoi songez-vous? Pourquoi me le demander, vous le savez bien. Je songe à ce que j'ai appris hier soir, et que vous m'aviez caché. Je songe à la rencontre que vous avez faite hier à la gare, et qui n'était pas due au hasard, mais qu'une lettre avait amenée, une lettre jetée, rappelez-vous, dans la boîte d'or San Michele. Oh, je ne vous fais pas de reproche, n'en ai pas le droit. Mais pourquoi vous être donné à moi si vous n'étiez pas libre? Elle pensa qu'il fallait mentir. Ah, vous voulez parler de quelqu'un que j'ai vu hier à la gare? Oh, je vous assure que ça a été la rencontre la plus banale du monde. Il fut frappé douloureusement de ce qu'elle n'osait pas nommer celui dont elle parlait. Il évita aussi de prononcer un nom. Thérèse, il n'était pas venu pour vous. Vous ne le saviez pas, Florence. Il n'est pas autre chose pour vous qu'un homme que vous voyez dans le monde et que vous recevez. Il n'est pas celui qui, absent, vous a fait me dire au bord de l'Arnaud « Je ne peux pas, il ne vous est rien ?» Elle répondit résolument « Il vient quelquefois chez moi. C'est le général Larivière qui me l'a présenté. Il n'est pas autre chose à vous en dire. Je vous assure qu'il ne m'intéresse en aucune façon et que je ne conçois pas ce que vous pouvez croire. » Elle éprouvait une sorte de contentement à renier l'homme qui avait soutenu contre elle avec tant de dureté et de violence ses droits de possesseur. Mais elle avait hâte de s'arrêter dans la voie tortueuse. Elle se leva et regarda son ami avec de beaux yeux tendres et graves. Écoutez-moi, du jour où je me suis donné à vous, ma vie vous appartient tout entière. Si vous vient un doute, une inquiétude, interrogez-moi. Le présent est à vous et vous savez bien qu'il n'y a que vous, vous seul, toi dedans. Quant à mon passé, si vous saviez quel néant c'était, vous seriez content. Je ne crois pas qu'une autre femme, faite comme moi pour aimer, vous eût apporté une âme plus neuve d'amour que la mienne. Cela, je vous le jure. Les années écoulées sans vous, je ne les ai pas vécues. N'en parlons pas. Il ne s'y trouve rien dont je puisse avoir honte. Avoir regret, c'est autre chose. Je regrette, oui, de vous avoir connu si tard. Mais pourquoi, mon ami, pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Je me serais laissé prendre par vous il y a 5 ans, aussi volontiers qu'aujourd'hui. Mais croyez-moi, ne vous fatiguons pas à creuser le temps qui n'est plus. Rappelez-vous Lohengrin. Si vous m'aimez, je suis pour vous le chevalier du cygne. Moi, je ne vous ai rien demandé, je n'ai rien voulu savoir. Je ne vous ai pas fait de querelle au sujet de mademoiselle Jeanne Tancrède. Moi, j'ai vu que tu m'aimais, que tu souffrais, et cela m'a suffi, parce que je t'aimais. Une femme ne peut pas être jalouse de la même manière qu'un homme, ni sentir ce qui nous fait le plus souffrir. Je n'en sais rien, pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans le sang, dans la chair d'une femme, cette fureur absurde et généreuse de possession, cet antique instinct dont l'homme s'est fait un droit. L'homme est le Dieu qui veut sa créature tout entière. Depuis des siècles immémoriaux, la femme est faite au partage. C'est le passé, l'obscur passé, qui détermine nos passions. Nous étions déjà si vieux quand nous sommes nés. La jalousie n'est pour une femme que la blessure de l'amour-propre. Chez l'homme, c'est une torture profonde comme la souffrance morale, continue comme la souffrance physique. Tu demandes pourquoi? Mais parce que, malgré ma soumission et mes respects, en dépit de la peur que tu me donnes, tu es la matière et moi l'idée, tu es la chose et moi l'âme, tu es l'argile et moi l'artisan. Oh, ne t'en plains pas! Auprès de l'enfort arrondi et sainte de Guirlande, qu'est-ce que l'humble et rude potier? Elle est tranquille et belle, il est misérable. Il se tourmente, il veut, il souffre, car vouloir, c'est souffrir. Oui, je suis jaloux. Je sais bien ce qu'il y a dans ma jalousie. Quand je l'examine, j'y trouve des préjugés héréditaires, un orgueil de sauvage, une sensibilité maladive, un mélange de violence bête et de faiblesse cruelle, une révolte imbécile et méchante contre les lois de la vie et du monde. Mais j'ai beau la connaître pour ce qu'elle est, elle est, et elle me tourmente. Je suis le chimiste qui, étudiant les propriétés de l'acide qu'il a avalé, sait avec quelle base il se combine et quelle sel il forme. Cependant, l'acide le brûle et le brûlera jusqu'aux os. Mon ami, vous êtes absurde. Oui, je suis absurde, je le sens mieux que vous ne le sentez vous-même. Vouloir une femme dans tous les cas de sa beauté, de son esprit, maîtresse d'elle-même, et qui sait et qui ose, plus belle en cela et plus désirable, et dont le choix est libre, volontaire, instruit. La désirer, l'aimer pour ce qu'elle est, et souffrir de ce qu'elle n'a, ni la candeur puérile, ni la pâle innocence qui choquerait en elle, s'il était possible de les y rencontrer. Lui demander à la fois qu'elle soit elle et ne soit pas elle, l'adorer telle que la vie l'a faite, et regretter amèrement que la vie qui l'a tant embellie l'ait seulement touchée. Bon, c'est absurde. Mais je t'aime, entends-tu, je t'aime, avec tout ce que tu m'apportes de sensations, d'habitude, avec tout ce qui vient de ton expérience, avec tout ce qui vient de lui peut-être, d'eux, que sais-je. Ce sont là mes délices et ce sont mes tortures. Il faut bien qu'il y ait un sens profond à cette bêtise publique qui veut que nos amours soient coupables. La joie est coupable quand elle est immense. Et voilà pourquoi je souffre, ma bien-aimée. Elle s'agenouilla devant lui, lui prit les mains, l'attira à elle. « Je ne veux pas que tu souffres, je ne le veux pas. Mais ce serait une folie. Je t'aime et je n'ai jamais aimé que toi. Tu peux me croire, je ne mens pas. » Il lui mit un baiser sur le front. « Si tu me trompais, ma chérie, je ne t'en voudrais pas. Au contraire, je t'en serais reconnaissant. » Quoi de plus légitime, de plus humain que de tromper la douleur? Que deverions-nous, mon Dieu, si les femmes n'avaient plus pour nous la pitié du mensonge? Mens, ma bien-aimée, mens, mais par charité. Donne-moi le songe qui colore les noirs chagrins. Mens, mais n'aie pas de scrupules. Tu n'ajouterais qu'une illusion à l'illusion de l'amour et de la beauté. Il soupira. Oh! Le bon sens, la commune sagesse. » Elle lui demanda ce qu'il voulait dire et quelle était cette sagesse commune. Il répondit que c'était un proverbe sensé mais brutal, et qu'il valait mieux taire. Mais dis-le tout de même. Vous voulez que je vous le dise? Bouche baisée ne perd pas sa fraîcheur. Et il ajouta, c'est vrai que l'amour conserve la beauté, et que la chair des femmes se nourrit de caresses comme l'abeille de fleurs. Elle lui mit sur la bouche un serment dans un baiser. Mais je te jure que je n'ai jamais aimé que toi. Oh non, ce ne sont pas les caresses qui ont conservé ce peu de charme que je suis heureuse d'avoir pour te l'offrir. Mais je t'aime, je t'aime. Mais il se souvenait de la lettre d'or sans Michel et de l'inconnu rencontré à la gare. Si vous m'aimiez vraiment, vous n'aimeriez que moi. Elle se leva indignée. Alors vous croyez que j'en aime un autre? Mais c'est monstrueux ce que vous dites là. Voilà ce que vous pensez de moi, et vous dites que vous m'aimez. Tenez, j'ai pitié de vous parce que vous êtes fou. Vraiment, je suis fou. Oh, dites-le-moi encore. Elle, agenouillée, du creux souple de ses mains, lui enveloppait les tempes et les joues. Elle lui dit encore qu'il était insensé de s'inquiéter d'une vulgaire et banale rencontre. Elle le força de croire, ou plutôt d'oublier. Il ne vit, ne sut, ne connut plus rien que ses mains légères, ses lèvres ardentes, ses dents avides, cette gorge pleine et toute cette chair offerte. Il n'eut plus d'autre idée que de s'anéantir en elle. Son amertume et sa colère évanouie ne lui laissaient plus que l'âcre désir de tout oublier, de lui faire tout oublier, et de tomber avec elle dans un évanouissement voluptueux. Elle-même, aiguillonnée d'inquiétude et de désir, éprouvant l'infinie passion qu'elle inspirait, sentant à la fois sa toute-puissance et sa faiblesse, rendit amour pour amour avec une fureur inconnue d'elle. Et dans une rage instinctive, dans une sourde volonté de se donner mieux et plus que jamais, elle osa ce qu'elle n'eût pas cru possible d'oser. Une ombre chaude enveloppait la chambre. Des rayons d'or, dardés au bord des rideaux, éclairaient le panier de fraises posé sur la table près d'un flacon de vin d'Astie. Au chevet du lit, l'ombre claire de la dame vénitienne souriait de ses lèvres décolorées. Les masques de Bergame et de Vérone traînaient leur joie silencieuse au bord des paravents. Dans un verre, une rose trop lourde tombait feuille à feuille. Le silence était chargé d'amour. Ils goûtaient leur fatigue ardente. Elle s'endormit sur la poitrine de son amant. Son léger sommeil prolongea sa volupté. Quand elle rouvrit les yeux, elle dit, heureuse, « Je t'aime. » Accoudée à l'oreiller, il la regardait avec une sourde angoisse. Elle lui demanda pourquoi il était triste. « Mais tu étais content tout à l'heure. Pourquoi ne l'es-tu plus ?» Et comme il secouait la tête et se taisait, « Mais parle, j'aime mieux tes plaintes que ton silence. » Alors il lui dit, tu veux savoir, on ne te fâche pas. Je souffre plus que jamais, parce que je sais maintenant ce que tu donnes. Elle se retira brusquement, et les yeux pleins de douleur et de reproches. Vous pouvez croire que j'ai été avec un autre ce que je suis avec vous? Vous me blessez dans ce que j'ai de plus sensible, dans mon amour pour vous. Je ne vous le pardonne pas. Je vous aime, je n'ai jamais aimé que vous. Je n'ai jamais souffert que par vous. Alors soyez content. Vous me faites beaucoup de mal. Seriez-vous méchant? Mais Thérèse, on n'est jamais bon quand on aime. Assise sur le lit, laissant comme une baigneuse pendre ses jambes nues, elle resta longtemps immobile et songeuse. Son visage, que le plaisir avait pâli, se colora, une larme vint mouiller ses cils. « Thérèse, vous pleurez ?»«
Pardonnez-moi, mon ami. C'est la première fois que j'aime et qu'on m'aime vraiment. J'ai peur.
Chapitre 24. Tandis que le roulement sourd des malles dans les escaliers emplissait la villa des cloches, que Pauline, chargée de paquets, descendait légèrement les marches, que la bonne madame Marmet, avec une tranquille vigilance, surveillait le départ des colis, et que Miss Bell achevait de s'habiller dans sa chambre, Thérèse, vêtue de gris pour le voyage, s'accoudant au bord de la terrasse, regardait une fois encore la ville de la fleur. Elle s'était décidée à partir. Son mari la rappelait en chacune de ses lettres. Si, comme il l'en priait instamment, elle revenait à Paris dans les premiers jours de mai, il pourrait, avant le Grand Prix, donner deux ou trois dîners suivis de réceptions. Son groupe était porté par l'opinion. Le flot le poussait, et Garin estimait que le salon de la comtesse Martin pouvait exercer une influence excellente sur l'avenir du pays. Ces raisons la touchaient peu, mais elle se sentait maintenant de la bienveillance pour son mari et désirait plutôt lui être agréable. Elle avait reçu, l'avant-veille, une lettre de son père, M. Montessuie, sans entrer dans les vues politiques de son gendre et sans donner de conseils à sa fille, faisait entendre qu'on commençait à parler dans le monde du séjour mystérieux de la comtesse Martin, Florence, parmi les poètes et des artistes, et que la villa des cloches prenait de loin un air de fantaisie sentimentale. Elle-même se sentait observée de trop près dans ce petit monde de Fiesole. Madame Marmet la gênait, le prince Albertinelli l'inquiétait dans sa nouvelle vie. Les rendez-vous au pavillon de la Via Alfieri devenaient difficiles et dangereux. Le professeur Arrighi, que le prince fréquentait, l'avait rencontré un soir, tandis qu'elle allait par les rues désertes, blottie aux côtés de Deschartres. Le professeur Arrighi, auteur d'un traité d'agriculture, était le plus aimable des sages. Il avait détourné son beau visage héroïque à moustache blanche et dit seulement le lendemain à la jeune femme « Autrefois, je devinais de loin l'approche d'une belle personne. Et maintenant que j'ai passé l'âge d'être regardé favorablement par les dames, le ciel a pitié de moi, il m'épargne leur vue. T'as de très mauvais yeux. Le plus aimable visage, je ne le reconnais plus. » Elle avait compris et se tenait pour avertie. Elle aspirait maintenant à cacher sa joie dans l'immensité de Paris. Viviane, à qui elle avait annoncé son prochain départ, l'avait pressée de rester quelques jours encore. Mais Thérèse soupçonnait que son amie restait choquée du conseil qu'elle était venue recevoir une nuit dans la chambre des citronniers, et que tout au moins elle ne se plaisait plus entièrement dans la familiarité d'une confidente qui désapprouvait son choix, et que le prince lui avait représenté coquette et peut-être légère. Le départ avait été fixé au 5 mai. Le jour brillait pur et charmant sur la vallée de l'Arnaud. Thérèse, songeuse, voyait de la terrasse l'immense rose du matin posée sur la coupe bleue de Florence. Elle se pencha pour découvrir, au pied des pentes fleuries, le point imperceptible où elle avait connu les joies infinies. Là-bas, le jardin du cimetière faisait une petite tache sombre auprès de laquelle elle devinait la Via Alfieri. Elle se revit dans la chambre si chère où, sans doute, elle n'entrerait plus jamais. Les heures passées sans retour lui apparaissaient avec la tristesse d'un songe. Elle sentit ses yeux se voiler, ses genoux fléchir et son âme défaillir. Il lui semblait que sa vie n'était plus en elle et qu'elle l'avait laissée dans ce coin où l'on voyait les pins noirs élever leurs cimes immobiles. Elle se reprochait de se troubler ainsi sans raison, quand au contraire elle devait se rassurer, se réjouir. Elle savait qu'elle retrouverait Jacques de Chartres à Paris. Ils auraient voulu, l'un et l'autre, y arriver en même temps, ou plutôt y aller ensemble. S'ils avaient jugé nécessaire qu'il restât 3 ou 4 jours encore à Florence, du moins leur réunion était prochaine, le rendez-vous pris, et elle vivait déjà d'y penser. Elle portait son amour mêlé à sa chair et coulant dans son sang. Pourtant, une part d'elle-même restait dans le pavillon aux chèvres et aux nymphes, une part d'elle-même qui ne lui serait jamais rendue. En pleine ardeur de la vie, elle mourait à des choses infiniment délicates et précieuses. Elle se rappelait que de Chartres lui avait dit « L'amour est fétichiste. J'ai cueilli sur la terrasse les baies noires et desséchées d'un troène que vous aviez regardé. » Et pourquoi n'avait-elle pas songé à emporter une petite pierre du pavillon où elle avait oublié le monde? Un cri de Pauline l'attira de ses pensées. Choulette, bondissant d'un buisson de cities, avait soudainement embrassé la femme de chambre qui portait les manteaux et les sacs dans la voiture. Maintenant, il fuyait par les allées, joyeux, hirsute, les oreilles dressées comme des cornes aux côtés de son crâne poli. Il salua la comtesse Martin. « Il faut donc vous dire adieu, madame. » Lui, il restait en Italie. Une dame l'appelait, disait-il, c'était Rome. Il voulait voir les cardinaux. L'un d'eux, qu'on vantait comme un vieillard plein de sens, entrerait peut-être dans l'idée de l'Église socialiste et révolutionnaire. Choulette avait son but, planter sur les ruines de la civilisation injuste et cruelle la croix du calvaire, non plus morte et nue, mais vive et de ses bras fleuris ombrageant le monde. Il fondait dans ce dessein un ordre et un journal. L'ordre, Madame Martin le connaissait. Le journal serait un sou et rédigé en phrases rythmées et en vers de complainte. Il pourrait, devrait être chanté. Le vers, très simple, violent ou joyeux, était en définitive l'unique langage qui convainc au peuple. La prose ne plaisait qu'aux gens d'une intelligence très subtile. Il avait fréquenté les anarchistes chez les troquets de la rue Saint-Jacques. Ils passaient leur soirée à dire et à écouter des romances. Et il ajouta « Un journal qui sera un cahier de chansons ira à l'âme du peuple. On m'accorde quelques génies. Oh, je ne sais si l'on a raison, mais il faut convenir que j'ai l'esprit pratique. » Miss Bell descendait les degrés du perron en mettant ses gants. « Oh, darling, la ville et les montagnes et le ciel veulent être pleurer de vous. Ils se font beau aujourd'hui pour vous donner le regret de les quitter et l'envie de les revoir. » Mais Choulette, que fatiguait l'élégante sécheresse de la nature toscane, regrettait la verte ombrie et son ciel humide. Il se rappelait assise, debout et priant sur la plaine grasse, au milieu d'une terre plus amolie et plus humble. « Il y a là, dit-il, des bois et des roches, des clairières qui découvrent un peu de ciel avec des nuages blancs. Je m'y suis promené sur la trace du bon Saint-François, et j'y ai mis son cantique du soleil en vieille rime française, simple et pauvre. » Madame Martin dit qu'elle voulait l'entendre. Miss Bell écoutait déjà et son visage prenait l'expression fervente d'un ange sculpté par Minot. Choulette les avertit que c'était un ouvrage rustique et sans art. Les vers ne voulaient point être beaux. Ils étaient simples, toutefois impairs pour la légèreté. Puis d'une voix lente et monotone, il récita le cantique. Je vous louerais, mon Dieu, d'avoir fait aimable et clair ce monde où vous voulez que nous attendions de vivre. Vous l'avez semé d'or, d'émeraude et d'outre-mer, comme un peintre qui met des peintures dans un livre. Je vous louerai d'avoir créé le Seigneur Soleil, qui nuit à tout le monde, et de l'avoir voulu faire aussi beau qu'il est le bon, très digne de vous, vermeil, splendide et rayonnant, en forme exacte de sphère. Je vous louerai, mon Dieu, pour votre frère le vent, pour notre sœur la lune et pour nos sœurs les étoiles, et d'avoir au ciel bleu mis le nuage mouvant, étendu les vapeurs du matin comme des toiles. Je vous louerai, Seigneur, je vous bénirai, mon Dieu, pour le brin de l'hysope et la cime de l'Ieuse, pour mon frère terrible et plein de bonté, le feu, et pour l'eau, notre sœur humble, chaste et précieuse. Pour la terre, qui, forte à son sein vêtue de fleurs, nourrit la mère avec l'enfant riant dans les langes, et l'homme qui vous aime et le pauvre dont les pleurs, au sortir de ses yeux, vous sont portés par les anges. Pour notre sœur la vie et pour notre sœur l'amour, je vous louerai, Seigneur, d'ores à mon ultime heure, afin d'être en mourant le nourrisson qui s'endort dans la belle vesprée pour une aube meilleure. « Oh, monsieur Cholette, dit Miss Bell, ce cantique monte vers le ciel comme l'ermite qu'on voit dans le Campo Santo de Pise, ravissant la montagne, aimé des chèvres. Je vais vous dire, le vieil ermite monte appuyé sur le bâton de la foi, et son pas est inégal, parce que la béquille étant d'un côté, elle met un des pieds en avance sur l'autre. C'est pour cela que vos vers sont inégaux. Oh, je l'ai bien compris. » Le poète accepta cette louange, persuadé de l'avoir inconsciemment mérité. « Vous avez la foi, monsieur Choulette, dit Thérèse. À quoi vous sert-elle si ce n'est affaire de beaux vers ?»« À pêcher, madame. Oh, nous pêchons bien sans cela. » Madame Marmet parut, équipée pour le voyage, dans la joie tranquille de retrouver enfin son petit appartement de la rue de la Chaise, son petit chien Toby, son vieil ami, M. Lagrange, et de revoir, après les étrusques de Fiesole, le guerrier domestique qui, parmi les boîtes de bonbons, regardait à travers la fenêtre le square du bon marché. Miss Bell conduisit dans la charrette ses amis à la gare.